Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGuayeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Jérémy Rainville.
Maintenant, il a quitté l'Europe. En fait, il est arrivé du côté de Montréal. Il sera de l'entraînement demain avec le Rocket de Laval. David Brandbacher s'amène avec le Rocket et on se pose des questions à savoir comment il va s'adapter. Pourquoi on l'envoie pas avec le Canadien? Pourquoi on l'envoie avec le Rocket? Est-ce qu'il y a de la place avec le Rocket pour avoir Brandbacher? Ben, toutes ces questions, on l'espère, seront répondues par Stéphane Leroux qui est avec nous. Salut Stéphane!
Salut Jérémy.
Stéphane, comment tu vois l'arrivée de Brandbacher avec le Rocket de Laval? Un, est-ce qu'il y a de la place pour lui?
Ben, on va y en faire de la place, c'est sûr. Avant le match d'hier, je t'aurais dit c'est difficile parce que le Rocket joue bien défensivement, mais là, hier, ils ont échappé une plate 7-1 à Toronto. Okay. Alors évidemment, ça donne plus de latitude à l'entraîneur Jean-François Houle pour dire ben là, de la façon dont ça s'est passé. Tu sais, quand tu gagnes 3-4 matchs de suite, que tu donnes pas gros de buts, tu veux pas trop changer ta formation. Mais là, avec le match d'hier, je pense que tout se prête à l'entrée de Brandbacher, fort probablement vendredi à Belleville. Il va s'entraîner demain, mercredi. L'équipe va partir jeudi là, pour la route. C'est 3 matchs en 3 jours le week-end prochain. Est-ce qu'on va l'utiliser 3 matchs en 3 jours? Ça, c'est difficile à répondre pour l'instant. Je pense qu'on va y aller match par match. La situation plausible, là, moi, si je m'appelle Mathias Norlinder, présentement, là, je suis probablement un peu inquiet de me faire tasser. Ça va être entre lui et Olivier Galipeau, là, mais si tu veux mettre Brandbacher dans une situation plus gagnante du côté droit, avec un Olivier Galipeau à gauche qui est fiable puis tout ça, je pense que ça pourrait être le cas. Donc, à droite, tu sais, ça donnerait quand même une situation intéressante pour le Rocket. Tu aurais Logan Mailloux, Justin Barron et David Brandbacher. Puis là, ben, à gauche, tu as toujours Trudeau et Paquette Bisson qui font du bon travail. Puis là, tu as Galipeau. À moins qu'on ramène Norlinder à gauche puis qu'on fasse jouer, que ce soit Olivier Galipeau qui saute son tour dans les prochains matchs, mais tu sais, quand tu regardes les statistiques de l'équipe, Olivier Galipeau, c'est pas un gars qui est repêché par les Canadiens. Il appartient à un contrat de la Ligue américaine. Il est plus 18. Tu regardes Norlinder, il est dans l'autre sens. Il est moins 17, moins 18. Tu sais, alors, si tu veux être logique, si tu veux y aller avec le mérite, comme on dit, moi, je pense que c'est Norlinder qui risque de peut-être perdre sa place.
Aujourd'hui, en point de presse, Juraj Slafkovský a parlé de Brandbacher en disant, il va voir, c'est pas facile nécessairement dans la Ligue américaine de hockey. On veut t'arracher la tête assez rapidement. Comment tu le vois, toi, le défi de Brandbacher dans la Ligue américaine de hockey avec le Rocket?
Il y a plusieurs défis qui se présentent à lui. De un, la grandeur de la patinoire. Ça, on va en parler souvent dans son cas. Il va falloir qu'il s'ajuste à ça. La façon dont ça se joue dans la Ligue américaine, particulièrement à ce stade-ci de l'année, où là, il reste 12 matchs, puis chaque équipe se bat pour se qualifier pour les séries éliminatoires. Tu sais, vendredi à Belleville, là, le Rocket reste 12 matchs à jouer. Il y en a 6 à jouer contre Belleville. Alors, ça va être des matchs très intenses contre les Sénateurs de Belleville, qui sont une équipe, on va le dire, robuste en plus. Là, c'est pas l'entrée en matière la plus facile pour un bonhomme comme Brandbacher, 19 ans, là, qui va se retrouver dans ce genre de situation-là. Alors, c'est sûr que c'est un défi. Si tu regardes tous les joueurs juniors, moi, je le répète, là, ça fait plusieurs années maintenant là, que j'ai la chance de décrire les matchs du Rocket, la marche est beaucoup plus haute entre le junior et la Ligue américaine qu'entre la Ligue américaine et la Ligue nationale. Là, ce qui aide Brandbacher, c'est qu'il n'arrive pas du junior. Il arrive quand même d'une Ligue élite suisse où il jouait déjà contre des gars de 25-30 ans. C'est pas comme le gars qui sort des rangs juniors. Il va falloir voir comment on va l'utiliser. Tu sais, la situation, le dernier comparable qu'on a avec le Rocket l'an dernier, c'était lorsque Jaden Struble est arrivé. Quand il est arrivé, il sortait des rangs universitaires. Lui aussi, il avait joué contre des gars de 21-22 ans, mais pas des hommes de 30 ans, mettons, là, tu sais. Puis, ça a pris 4 matchs avant qu'on l'embarque dans l'alignement. Puis après ça, il avait joué 9 des 10 derniers matchs. Mais Ryan Backer, évidemment, c'est un choix de première ronde, cinquième au total. Je pense que Kent Hughes, de ce que j'ai vu passer aujourd'hui, c'est il va être sur la glace demain à Laval, puis on s'attend à ce qu'il joue en fin de semaine. Est-ce qu'il va jouer les trois matchs? Ça, je suis pas convaincu, mais il va jouer. Est-ce que ça va être direct à Belleville vendredi? Moi, j'ai l'impression que oui. C'est une belle situation pour l'embarquer. Il y aura pas toutes les caméras aussi d'un match à Laval. Tu sais, commence ça sur la route tranquillement, parce que c'est sûr que demain matin, là, il va y avoir pas mal plus de médias à l'entraînement du Rocket qu'il y en a d'habitude. Tu sais, c'est sûr et certain. On a hâte de le voir. On l'attend. On avait comme une... Tu sais, vendredi, là, on était plusieurs collègues à surveiller un match de deuxième division en Suisse pour savoir si l'équipe de Holten était pour gagner ou pas, puis si la saison de Ryan Backer était finie ou pas. Tu sais, quand est-ce qu'on suit un match de deuxième division en Suisse? Tu sais, mais c'est ça le marché de Montréal, puis c'est ça le fait que tu aies un choix de première ronde, cinquième au total, tu sais, puis on recommencera pas à sortir les histoires du dernier repêchage, est-ce que c'était le bon gars à prendre ou pas. On va attendre, on va voir, mais c'est ça, on a hâte de le voir, puis on a hâte de voir ce qu'il est capable de faire avec la Ligue américaine ici d'abord, puis éventuellement peut-être avec le Canadien d'ici la fin de la saison, on verra.
Oui, parce que là, on a mis Struble sur la liste de rappel qui donne accès au Rocket de Laval. Si tu ramènes Struble, là, ça devient encore plus complexe, là, c'est encore plus de congestion défensive.
Ouais, ben, tu sais, le règlement, là, c'est que tu as droit à 4 rappels après la date limite des transactions. Là, le Canadien a déjà fait 2 rappels parce qu'on a cédé Joshua Roy, puis on a cédé Jaden Struble, puis on les a rappelés tout de suite après pour qu'ils demeurent avec le Canadien. Fait que là, tu as déjà 2 rappels de brûlés. L'équipe est dans l'Ouest pour 2 semaines. Moi, j'ai comme l'impression là, qu'on touchera pas à l'alignement du Canadien là, pendant le reste du voyage là, qui va emmener l'équipe là, à Denver et tout ça. Là. Mais par la suite, parce que si tu fais, exemple, la prémisse que tu viens de parler, t'envoies Struble en bas, mettons, puis tu ramènes Ryan Backer, ben là, t'as un autre appel de brûler. Là. Il va t'en rester juste un d'ici la fin de l'année. T'sais. Alors, faut que tu penses à ça un petit peu aussi. Tu sais, c'est dans l'équation. Là, il y a 2 des 4 appels qui sont brûlés présentement. Moi, j'ai l'impression qu'on va attendre un petit peu. T'sais. Puis éventuellement, si le Rocket est toujours dans le portrait pour les séries, là, lorsqu'il restera 3-4 matchs à jouer au début d'avril, ben peut-être qu'on décidera de retourner Struble et même peut-être Joshua Roy, on verra, pour donner un coup de main au Rocket. Mais en ce moment, là, je veux dire, ils ont leur place avec les Canadiens, puis tu sais, il y a 14 attaquants en ce moment avec les Canadiens, puis là-dedans, t'as Pezzetta puis Ilonen, fait que c'est un petit peu dur, puis White, puis c'est un petit peu dur d'enlever Joshua Roy en ce moment, tu sais, ou il mérite pas d'être retourné à Laval de la façon dont il joue. Puis dans le cas de Struble, ben là, il alterne un petit peu là avec Kovacevic, mais il a fait partie quand même des 4-5 premiers défenseurs du Canadien la majeure partie de la saison. Alors, c'est de la gestion là pour l'équipe. Puis évidemment, on n'est pas à l'abri d'une blessure. Là, en ce moment, il n'y a pas d'autres blessures qui sont arrivées dernièrement, là, mais peut-être que ça peut arriver aussi dans les prochains matchs. Là.
Stéphane, on avait la chance de parler avec Danny Dubé un petit peu plus tôt, qu'une référence à des conversations qu'il a eues en Suisse sur David Reinbacher. Il a dit, il a essayé de se transformer cette année. Il en a fait trop. T'sais, dans un contexte où l'équipe ne gagne pas, on a eu des changements d'entraîneur, puis essayer de se la jouer Bobby Orr un peu. Donc, ça devient complexe. Moi, je veux savoir comment tu penses que ce gars-là va s'adapter à la Ligue américaine de hockey. S'il décide d'en faire trop, il va se faire brûler, ça, c'est sûr et certain.
Ouais, il a peut-être eu la gang de la deuxième année de la Ligue suisse. Parce que tu regardes ses chiffres, l'an passé, il était meilleur à 18 ans avec Kloten qu'ils l'ont été cette année. Puis si tu as raison, Kloten a terminé 13e sur 14 cette année. On a passé 3 entraîneurs durant la saison. Là, il y avait la pression d'être un choix de première ronde. Alors, il voulait probablement montrer à tout le monde qu'il l'était. Moi, je vais être honnête avec toi. Là, j'ai regardé peut-être un match et demi ou deux là, de Kloten, puis j'ai regardé des séquences. Fait que je prétends pas l'avoir vu jouer là, pendant ses 40 matchs là-bas. Mm-hmm. Il a pas été au championnat du monde de hockey junior cette année parce que l'Autriche n'était pas dans le groupe mondial dans lequel on était avec le Canada en Suède. Alors, on l'a pas vu. Il avait joué au mondial junior à 17 ans pas à 18 ans, mais il est pas allé cette année. Probablement que tu as raison. Puis ce que Danny a appris de son interlocuteur, c'est probablement vrai. Mais il va falloir casser ça. En arrivant à Laval demain, puis le reste de la semaine, il va avoir une conversation avec les entraîneurs qui sont en place là-bas. Puis c'est beau que tu veux montrer qu'est-ce que tu es capable de faire, mais faut pas que tu t'essaies de trop en faire non plus. Puis, tu sais, tu regardes un gars comme Logan Mailloux au début de l'année qui arrivait des rangs juniors, il essayait d'en faire beaucoup aussi au début de l'année, puis ça, c'était difficile. Il s'est retrouvé là, dans les 30 premiers matchs, il était moins 12, Mailloux, mais depuis 25-30 matchs, Logan Mailloux, il est phénoménal à Laval. Si les gens regardent les matchs, là, je veux dire, il joue du gros hockey, puis il est de plus en plus en confiance. Ça y a pris, 60 matchs de jouer maintenant. T'sais. Alors, faut pas penser là, que Ryan Backer là, va virer la Ligue américaine à l'envers en arrivant vendredi soir. T'sais. Mais pour lui, c'est une question de se tremper les pieds, de jouer quelques matchs. Puis est-ce que d'ici la fin de la saison, le Canadien va se dire, ben, tu sais, c'est pour l'expérience, peut-être de le ramener un match ou deux avant la fin du calendrier, quitte à le retourner à Laval après, on pourra le faire. T'sais, si on n'a pas brûlé les fameux rappels dont je te parlais tantôt, pourquoi pas, t'sais, lui donner la chance de jouer. Ça pourrait être une option. Mais pour l'instant, il est à Laval, puis c'est pas certain qu'on va le voir avec le Canadien d'ici la fin de l'année.
Deux mots que Danny utilisait avec Ryan Backer, c'est sobriété et efficacité. C'est ce qu'on s'attend de lui, c'est-à-dire, fais ça simple, mon ami, essaie pas de faire ça trop compliqué, parce que tu vas voir que ça arrive vite dans la Ligue américaine. Tu sais, il y a des gars d'expérience là-dedans, là. C'est pas tout du monde de 21 ans. Il y en a qui c'est des routiers là-dedans. Là.
Ben oui, tu joues contre des gars qui ont de l'expérience dans la Ligue nationale, là. Je veux dire, il y a des gars qui ont 28, 30 ans, qui ont 300, 400 matchs de jouer dans la Ligue nationale. Alors, c'est une ligue beaucoup plus puissante. Je veux pas manquer de respect à la Ligue élite suisse, là, mais la Ligue américaine, tu sais, après la Ligue nationale, t'as la KHL, t'as la Ligue américaine, tu sais, c'est pas mal les trois meilleures ligues au monde en ce moment. Alors, il y a du bon hockey qui se joue en Suisse, mais c'est pas le même genre de hockey. C'est la grande patinoire, puis tout ça. Alors, le défi, il est là. Le défi est là. Puis je pense qu'il le sait, là. Je veux dire, c'est pas un imbécile non plus. Là. Il a sûrement suivi à distance ce qui se passait avec le Canadien puis ce qui se passait un peu avec le Rocket de Laval. Il y a des gens qui disaient qu'il restait en contact même avec des joueurs ici et tout ça. Alors, mais tu sais, là, il va le vivre. Il va le vivre puis il va voir ce que c'est en partant. T'sais, écoute, s'il fallait qu'il joue trois matchs en trois jours, je pense pas que ça lui est arrivé nécessairement souvent dans le calendrier de la Ligue suisse. Mais c'est ça la réalité de la Ligue américaine. Là, le Rocket est 3-3 en fin de semaine. Puis après le match de dimanche à Toronto, on va demeurer à Toronto parce que le Rocket joue le mercredi après à Utica. Alors, on viendra pas à Laval entre les... Fait que dans le fond, là, il va partir sur la route jeudi avec le Rocket pour un voyage d'à peu près une semaine qui va faire jouer l'équipe quatre matchs en six jours. C'est beaucoup de stock en partant là pour un jeune de 19 ans qui arrive. Puis sa rentrée à Laval, ben, ça va être vendredi dans deux semaines, là, le 28-29, puis c'est aussi contre Belleville. Écoute, c'est pas dur. Il reste 12 matchs à jouer contre le Rocket, il en reste 6 contre Belleville. Alors, il va les connaître avant longtemps.
C'est quand même un drôle de calendrier. Mais en terminant, Stéphane, parle-nous de ce qui s'est passé. Là. Comment ça se fait que le Rocket s'est fait traverser contre les Marlies de Toronto? Ben,
moi, j'étais à Sherbrooke hier, puis je regardais le match du Phoenix. On surveillait Poirier, qui, incidemment, a marqué son 50e but. On en parlait hier matin.
Oui, on va l'avoir en entrevue, d'ailleurs, à 9h30. À 21h30, il sera avec nous, jeune Justin Poirier. Parfait.
Mais je regardais le match du Rocket sur la tablette, puis écoute, après 20 minutes, c'était 4-0, ça allait pas du tout. Le Rocket semble avoir un complexe là, contre les Marlies. La dernière fois que les Marlies sont venus à Laval, ça s'est fini 5-1, 6-1 pour Toronto, puis là, 7-1 hier, puis la visite d'avant à Toronto que le Rocket avait eue, il en avait gagné une 7-1, puis il en avait perdu une 6-1. Fait que dans les 5 derniers affrontements contre Toronto, il y a 4 défaites par des gros pointages. Puis le pire, c'est que Toronto, hier après-midi, était sur un troisième match en trois jours, avait joué vendredi et samedi, alors que le Rocket, le samedi, avait voyagé. Mais c'est sûr que ça n'a pas été une bonne performance, puis c'est un petit peu difficile à comprendre, parce que tu arrivais d'une séquence de 4 victoires, tu avais un super bon séjour à domicile, mais sur la route, le Rocket, c'est beaucoup plus difficile. Tu regardes les statistiques, ils n'ont que 10 victoires à l'étranger. C'est difficile de gagner sur la route dans la Ligue américaine, on le sait tous. C'est pas des conditions de voyage qui ressemblent à celles de la Ligue nationale. Alors, c'est souvent des bonnes ride en autobus, j'en ai fait une avec eux il y a deux semaines, là, c'est pas évident. Puis tu sais, t'as des séquences comme ils vont vivre en fin de semaine, 3-3. Mais là, c'est parce que tu te bats pour ta survie. Là. Tu te bats pour rester. Si tu veux participer aux séries éliminatoires, puis on sait tous que l'appui que l'équipe a à Laval, on veut faire partie des séries éliminatoires. Et là, hier, c'était un match de 4 points, là, le fameux cliché. Puis le match de 4 points après une période était terminé. Là. C'était 4-0 pour Toronto. Puis tu savais très bien que Laval compterait pas 5-6 buts là, à Toronto hier après-midi. Puis le gardien avait une mauvaise dans le système aussi, puis on peut pas y en vouloir parce qu'il était solide. Est-ce qu'il a trop joué? Est-ce qu'il commence à être fatigué un petit peu? Ça se peut aussi. Tu sais, il est rendu à 42 matchs de jouer d'aubèche. C'est beaucoup de hockey pour un gars qui sort des collèges américains. Mais c'est lui qui a donné les meilleures chances au Rocket de gagner cette année. Alors, on y va avec lui le plus souvent possible. Alors, il faut que le Rocket se ressaisisse. T'sais, en fin de semaine, pour bien faire, là, ça prendrait 4 points sur 6. Tu sais, contre Belleville puis Toronto, là, faut que t'ailles... S'ils sortent de là avec deux défaites ou même trois défaites, là, ça va être très, très difficile après ça. Là. L'an passé, Jérémy, je sais pas si tu te souviens, le Rocket avait dû gagner 8 de ses 9 derniers matchs pour se qualifier pour les séries.
Ouais.
Là, après le week-end, en fin de semaine, il va en rester 9 matchs. Fait que s'il faut que tu perdes 3 matchs en fin de semaine, ben ça va prendre le même genre de séquence que l'an passé pour aller jusqu'au bout. Moi, je suis de ceux qui disent que ça va prendre 76, 77 points pour se qualifier pour les séries. Mais en ce moment, là, le Rocket est à 62 points. Alors, tu sais, ouais, fallait comme tu veux, là, ça prend 7-8 victoires dans les 12 derniers matchs.
Ben, c'est à suivre pour le Rocket de Laval. Stéphane Leroux, toujours un plaisir. Merci d'avoir été avec nous.
Merci. Salut.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Direction Edmonton pour parler avec Martin McGuire qui est à l'entraînement du Canadien aujourd'hui en prévision du match de demain face aux Oilers. Salut Martin!
Salut Jérémy!
Bon, dans un premier temps, évidemment, tout le monde regarde ce qui se passe avec Martin Saint-Louis. Comment le groupe se comporte avec l'absence de Martin Saint-Louis?
Ben écoute, tu sais, on a mentionné ça bien sûr dans les dernières heures, Jérémy. C'est un gros morceau, Martin Saint-Louis. C'est un gars qui... disons, c'est un peu la pièce centrale de tout ce que le Canadien est en train de faire pour remettre l'équipe sur les rails, disons, reconstruire, remettre de bonnes habitudes de travail dans cette formation-là. C'est un entraîneur charismatique. Jérémy, c'est un gars qui draine beaucoup d'attention autour. Puis je pense qu'aussi, il vient chercher ses joueurs de la même façon. Ça a été encore le centre des conversations ici du côté de Edmonton. On sait que dans les prochaines heures, il y a la réunion des directeurs généraux qui va commencer en Floride. Alors, Kent Hughes, Jeff Gorton vont être de ce côté-là. Donc, c'est la raison pour laquelle ils sont pas ici avec l'équipe, mais on s'attend à ce qu'un petit peu plus tard dans le voyage, les deux patrons hockey du Canadien, dans les circonstances probablement là, un peu plus même, viennent rejoindre l'équipe ici. Retour à l'entraînement aujourd'hui, Jérémy, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde était sur la patinoire, même Juraj Slafkovský, qui a raté au cours des deux dernières semaines plusieurs entraînements. Il n'avait pas raté les matchs, mais les entraînements, il les ratait. Alors, tout le monde était au rendez-vous. Slafkovský à son poste avec Caulfield et Suzuki. Et l'entraîneur remplaçant actuellement, Trevor Letoski, avait pas modifié les trios. Donc, on avait les mêmes trios, exactement les mêmes trios que dans le dernier match contre les Flames. Et les duos de défense étaient restés intacts. On a une décision à prendre, bien évidemment, lequel des défenseurs sera retranché. Quand il arrive une situation auquel fait face le Canadien, l'entraîneur qui doit quitter l'équipe temporairement, ça provoque des remous. L'équipe est sur la route. C'est peut-être un peu plus difficile à gérer dans des circonstances comme celle-là. C'est sûr qu'il y a eu des réunions dans les dernières heures. Trevor Letoski a rencontré son capitaine, son groupe de leadership pour que tout le monde soit justement sur la même page. Ils vont avoir un rôle important, le capitaine et le groupe de leaders. On a discuté de ça avec l'entraîneur aujourd'hui, on écoute.
I think so, yeah. They have to step up the leadership in these kind of circumstances for sure. I think everybody, coaches and players, have to step up. But in particular, I would say the leadership group, yes. We have to lean on them and make sure, you know, we're obviously going to try to hold this group accountable. But I think that, you know, they can certainly help us as in that regard to just, you know, keep this thing on the tracks.
Alors, replacer l'équipe sur la bonne voie, garder l'équipe sur la bonne voie, c'est sûr que c'est une des responsabilités qu'aura le groupe de leadership dans les prochaines heures. Le défi va être tellement important contre les Oilers d'Edmonton. C'est un gros match qui attend le Canadien demain. Il va falloir être presque parfait, Jérémy, puis il va falloir avoir, bien évidemment, la tête à la bonne place. On a jasé un peu avec le capitaine de l'équipe,
Le capitaine qui a une relation quand même qui date de quelques années avec Trevor Letoski. Ils se sont rencontrés à l'époque où Nick jouait chez les juniors. Ils avaient fait la tournée des équipes russes, là, autant dans la LHJMQ à l'époque que la Ligue de l'Ontario au Canada. Là. Alors, c'est une équipe qu'avait dirigé Trevor Letoski. Suzuki était sur cette équipe-là. Camp d'entraînement d'équipe Canada junior, ils se connaissent depuis un bout de temps. Tu sais, la communication est plus facile entre deux personnes qui se connaissent. Il faut qu'ils travaillent ensemble là-dedans. Nick Suzuki a mentionné que Letoski n'a pas à être différent. Il change de rôle, mais il n'a pas à être une personne différente, dis-je bien. C'est quelqu'un qu'on respecte autour de l'équipe. Brendan Gallagher, lui, a ajouté un commentaire intéressant en disant que c'était le temps pour les joueurs de redonner par rapport à la situation de Martin Saint-Louis. Alors, on va écouter Nick Suzuki et Brendan Gallagher.
I don't think he has to be different. I mean, he has a really good relationship with all of us. You know, he talks to the group a ton. You know, he runs meetings for us all the time. He's got obviously a really close relationship with Marty. You know, so it's similar guys for sure with the way they communicate and handle things. So, you know, it's a pretty smooth transition so far.
You know, we know how much Marty cares. We know how impactful he's been on us individually and as a team. So you want to make sure that you respond appropriately. I think it's something to play for us. I think we all appreciate every hour he puts in for us, and he's one of the hardworking guys in the rink still. And you know, we appreciate that, and this is our chance to kind of show him exactly how much.
Il y a beaucoup de bruit, Jérémy. Ça a été un gros vestiaire aujourd'hui à Edmonton. Là. Il y avait beaucoup de journalistes, évidemment, ceux qui suivent l'équipe de Montréal, bien sûr, mais aussi un bon contingent de journalistes ici à Edmonton. Comme tu sais, la visite du Canadien ici, c'est toujours une grosse affaire. Pour Brendan Gallagher, ses commentaires étaient intéressants parce que il a mentionné que Martin Saint-Louis est un entraîneur qui s'investit beaucoup. C'est un gars qui travaille énormément pour replacer cette équipe-là. Et justement, c'est cette implication-là qu'il ne peut faire actuellement et qui fait en sorte que c'est le tour des joueurs, en quelque sorte, de retourner l'ascenseur.
Maintenant, prenons quelques instants. C'est Samuel Montembeau qui sera devant le filet pour le Canadien demain face aux Oilers?
Oui, effectivement, c'est Montembeau qui va être le gardien partant, Jérémy. Montembeau, donc, revient dans la formation après sa dernière sortie. Ça n'a pas été mal contre les Bruins, mais ça n'a pas été parfait. Alors, lui aussi, tu sais, il a à se reprendre. Puis, il me disait d'ailleurs que ils vont avoir une petite tempête à gérer, le Canadien, Jérémy, parce que les Oilers ont joué un gros match en fin de semaine, samedi soir, au moment où on arrivait d'ailleurs de Calgary. Là, les partisans sortaient ici puis venaient d'assister à une défaite en prolongation contre l'Avalanche du Colorado. Écoute, comme on dit, là, c'était sur le buzzer. Arturi Lehkonen a marqué à la toute fin de la rencontre. Alors, tu sais, Samuel Montembeau nous a dit, les Oilers vont avoir faim, c'est sûr.
Clairement. Donc, Samuel Montembeau, est-ce que ce dernier a parlé de Trevor Letoski? Parce que là, écoutez, ça, c'est Letoski en a quand même beaucoup présentement sur les épaules. Là.
Effectivement. Écoute, Samuel Montembeau, lui, il n'y a pas de doute. Là, la confiance est là pour l'entraîneur remplaçant actuellement. Puis, à la fin du point de presse avec Trevor Letoski, on a parlé un peu de ce qu'il a sur les épaules. La charge de travail qui est différente par rapport à celle d'être entraîneur adjoint puis son implication auprès des joueurs. Alors écoutons Samuel Montembeau et Trevor Letoski.
Non, ben le même gars, c'est sûr. Je pense qu'il est très apprécié de tous les joueurs. Donc il n'a pas changé parce que son travail peut-être change un peu. On sait que c'est tout en lui aussi qui est là pour aider Martin. Donc il connaît bien les choses. Puis je suis pas inquiet qu'il va être capable de bien aller pendant l'absence de Martin.
You know, a lot is on you, right? It's your whistle, it's your message with most of the meetings, and so it has been a little bit of an adjustment, but it's been an exciting time and challenging, but you know, it's been fun. And I mentioned the other day, I get a ton of support from the staff and from Burr and Roby in particular, but the extended staff too has stepped up, and you know, we're all in it, just, you know, trying to do this thing together. It's certainly not just me.
Alors, c'est pas juste à moi, c'est pas seulement à moi de le faire, on le fait en groupe. Il a parlé du support indéfectible qu'il obtient actuellement d'Alex Burrows, entraîneur adjoint. On l'appelle Burr, c'est son surnom au sein de l'équipe. C'est pour ça que vous avez entendu ce mot-là. Et aussi, bien sûr, Stéphane Robida. Puis toute l'équipe, tout le personnel autour de l'équipe, Jérémy, mettre l'épaule à la roue, tu sais, parce que je me répète peut-être, mais Martin Saint-Louis, c'est un gros morceau. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de place, là, mais dans le sens positif du terme. Puis c'est pour ça que c'est un peu tout le monde qui se sent concerné par le fait qu'on doit continuer, puis continuer au meilleur d'eux-mêmes pendant qu'il est parti.
Maintenant, Martin, parle-nous de ce qu'on a raconté du côté des Oilers d'Edmonton.
Un paquet d'affaires. Écoute, tu sais que c'est une équipe à l'énergie renouvelée. Ils vont très bien. Ils ont réécrit complètement l'histoire de leur saison quand le nouvel entraîneur Knobloch est arrivé. C'est une équipe qui a un bon jeu collectif. Tu sais, oui, Connor McDavid, oui, Leon Draisaitl, mais ils ont des gars qui ont des saisons incroyables. Hyman en est un. Lui, je peux te dire que si Toronto pouvait le revoir, il le reprendrait tout de suite. Hyman se dirige probablement vers la plus grande saison de sa carrière, presque 50 buts. C'est le gars qui amène la passion dans cette équipe-là. Tu sais, McDavid, là, sur les épaules, l'équipe, mais l'autre, c'est celui qui draine toute l'émotion que les Oilers ont besoin. En plus de marquer des buts, il n'a pas changé depuis l'époque des Maple Leafs, même il est meilleur. Alors, tu sais, il provoque l'adversaire, il n'a pas peur de se mettre le nez dans le trafic. Je demandais à McDavid, je disais, est-ce que tu penses qu'il est maintenant dans la catégorie des marchands et compagnie, là, ces joueurs d'énergie, mais d'énergie de luxe, là, qui sont des gros contributeurs. Puis McDavid, il dit, mais aller dans la catégorie que tu veux, là, mais je peux dire que pour nous autres, il est très important. On a parlé de la date limite des échanges avec cette équipe-là. Jérémy, je te raconte ça vite, là, mais c'est quand même important. On a pensé tout l'hiver que Ken Holland se chercherait un gardien de but auxiliaire. Mm-hmm. Et à la date limite des échanges, ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu des approches, mais à la date limite des échanges, ce qu'on a fait comme choix ici à Edmonton, c'est de faire confiance à Skinner. Et on s'est dit qu'il valait mieux avoir 7 défenseurs ici avec le grand club. Alors, avec le peu de marge de manœuvre qu'on avait, on a préféré aller chercher ce défenseur numéro 7. C'est le défenseur Stetcher qui était avec les Coyotes de l'Arizona. Vous allez me dire, là, ça t'équipe pas pour gagner la coupe, ça. Mais ce que ça fait pour eux là, dans l'échiquier, c'était... Ajoutons-nous de la profondeur à la défense, parce que le seul défenseur qui aurait pu venir ici s'il y avait une blessure, c'est un jeune qui est avec les Condors de Bakersfield. C'est un bon jeune joueur, mais il n'est pas prêt à prendre la Ligue nationale puis les séries, tandis que Stetcher, lui, il a déjà quand même quelques années de vécu. Alors, c'est l'équation qu'on a faite. Puis l'autre équation qu'on fait, puis là, ça, c'est pas le département hockey qui fait cette équation-là. Ce sont nos collègues ici, quand ils parlent de leur équipe cette année. Les Oilers ont beaucoup plus de chances maintenant de rencontrer les Kings en première ronde des séries que de se frotter aux Golden Knights, à l'Avalanche du Colorado, aux Stars de Dallas ou aux Jets de Winnipeg. Et je discutais avec un collègue bien renseigné ici, puis il disait, écoute, les 4 équipes que je viens de mentionner, Jérémy, là, ils vont s'affronter probablement l'une contre l'autre. Mm-hmm. Alors, après la première ronde des séries, là, il y a 2 favoris qui vont sauter dès le premier tour. C'est comme si au tennis, là, tu faisais partir tes 2 têtes de série numéro 1 en partant. Alors, ici à Edmonton, les partisans, les médias qui couvrent l'équipe se disent, si les Oilers passent la première ronde adéquatement, c'est peut-être pour eux une opportunité de profiter d'un chemin ouvert devant eux. Évidemment, là, on fait bien attention et on pèse nos mots ici, mais l'analyse est intéressante parce que les Oilers se disent on est allé jusqu'en 2e ronde l'année passée, mais cette année, on veut ambitionner la 3e ronde, puis peut-être qu'on aura justement une conjoncture pour qu'on puisse le faire. Mais bien évidemment, ça se gagne une par une, Jérémy.
Mais Martin, la chose est sûre, c'est que si jamais ça fonctionne pas avec Skinner dans les séries, encore une fois, là, on comprendra qu'il faut aller chercher un gardien de but à un moment donné, parce que oui, il est bon, mais ça demeure toujours un point d'interrogation. Il est bon jusqu'à temps que ça arrête qu'il soit bon.
Exactement. Puis tu sais, c'est un pari qu'ils ont pris. T'sais, ils ont préféré aller chercher un 7e défenseur. Ils ont donné un peu d'argent, là, c'est pas beaucoup, Mais ils ont donné un peu d'argent à Corey Perry. Ils sont très contents de ce que Perry leur apporte. Nous, à Montréal, on l'a vu en 2021, ce qu'il est capable de faire en série. Il va faire la même affaire, mais encore un petit peu moins vite, mais il va faire la même affaire. On a jasé avec lui dans le vestiaire, justement, il disait à quel point, il dit, c'est drôle, la chambre ici, là, c'est un groupe très homogène. Il dit, il y a des gars très différents, des personnalités très différentes, mais il dit, ça colle. Vraiment, là, ils ont un groupe qui joue les uns pour les autres. L'autre soir, Vincent Desharnais a jeté les gants pour défendre un coéquipier, ben, principalement son capitaine. Il n'aimait pas la façon dont les joueurs de l'Avalanche brassaient le capitaine. Il est allé s'interposer tout de suite, puis encore, tu sais, puis on a vu quel point ce groupe-là est uni cette année, McDavid qui a commencé à sourire aux médias. Jérémy, oh, c'est pas rien, là. Oh. C'est pas rien. D'ailleurs, il y a un collègue qui me disait que depuis un an, il a quand même beaucoup changé, justement, dans son approche. Il est moins froid. Il est plus communicatif avec les médias ici. Mais je ferme la parenthèse, puis je retourne sur ce qu'il a dit. McDavid a dit, Vincent Desharnais, c'est un pilier de notre brigade défensive. Il dit, c'est peut-être une des belles histoires de notre vestiaire en termes de persévérance. Puis il a dit, cette persévérance-là se transmet aujourd'hui dans le travail puis dans l'implication qu'il a dans notre équipe. Alors, Vincent peut bien dormir ce soir. Son capitaine a une très haute estime de lui.
Bon, le capitaine qui a une bonne opinion, le souriant capitaine qui a une bonne opinion de Desharnais. Oui. Juste, Martin, demain, c'est un 60 minutes d'avant-match, pas banal quand même, à compter de 8 heures, c'est ça, 20 heures?
Oui, oui, on est là à 20 heures, puis justement, vous allez entendre une entrevue qu'on a fait avec David Desharnais, oui. Vincent, je savais que je ferais l'erreur. Vincent, on a fait une entrevue avec Vincent Desharnais aussi. Beaucoup de réactions parmi celles que je vous ai fait entendre, mais d'autres réactions et d'autres commentaires des joueurs du Canadien sur le fait que Martin Saint-Louis n'est pas ici autour et ce qu'il faut faire justement pour garder le train sur les rails. Alors, on va vous proposer ça, bien sûr, dans l'avant-match demain. Puis, on va jeter un œil aussi sur la réunion des directeurs généraux bientôt et des enjeux qui vont être discutés là-bas. Il y a une couple d'affaires quand même sur le feu pour les dirigeants de la Ligue nationale.
Clairement, donc, tu as raison, c'est le même nom, sauf qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre dans les Desharnais. Martin, oui. On vous écoute demain à compter de 20h. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Salut Jérémy, bonne émission. Bonne
merci,
soirée.
Au revoir.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
C'est une situation qui est peu normale. Lorsque samedi, juste avant le match, face aux Flames de Calgary, on apprenait que l'entraîneur-chef Martin Saint-Louis quittait l'équipe pour des raisons familiales. Puis là, je sais qu'il y a des gens qui nous envoient des messages. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Honnêtement, puis on veut-tu le savoir? On veut juste que Martin Saint-Louis s'occupe de sa famille en espérant que tout le monde soit correct. C'est un de ses fils. David Savard le dit. C'est qui? C'est quoi? Je ne sais pas. On veut pas le savoir. En fait, on va le laisser aller là-dedans. Mais surtout, c'est que ça amène de l'instabilité. Et c'est déjà arrivé chez les Canadiens. Souvenez-vous, dans la bulle, Claude Julien, à un moment donné, problème cardiaque, pouf, faut qu'il quitte la bulle, mais faut jouer, là. Faut jouer parce qu'on avance. On est en match éliminatoire. Il faut trouver le succès. Il était de l'organisation du Canadien à l'époque. Stéphane White est avec nous. Salut, Stéphane.
Salut, Jérémy.
Hey, Stéphane, raconte-nous comment ça s'est passé quand Claude Julien a dû quitter. Raconte-nous, là, un peu, là, quand tu reçois un appel, raconte-nous comment ça s'est passé.
Oui, écoute, si tout le monde se souvient bien, c'était dans la fameuse bulle à Toronto, et puis où que personne ne pouvait sortir de l'hôtel ou de l'aréna, puis on avait des couloirs tout sécurisés pour aller de l'aréna à l'hôtel. C'est tout ce qu'on pouvait faire, on était testé à tous les jours. Et puis un certain matin, à 7h du matin, Marc Bergevin, j'en reçois un appel de Marc Bergevin, réunion d'urgence des coachs dans 15 minutes. c'est qu'il m'a juste qu'est-ce qui se passe, on se lève, je me suis mis à l'air, puis m'en voilà, puis tous les entraîneurs sont là, sauf un qui manque, Claude Julien.
Mais là, attends, le DG, t'avais-tu dit au téléphone, viens-t'en, parce que Claude, il sera pas, il dit rien, là, il dit viens-t'en juste d'urgence.
Non, on dit juste, réunion dans 15 minutes. Et puis, c'est ça, on sait absolument rien. Donc, on arrive là, le seul qui manque, c'est Claude. Et c'est là qu'on apprend de la bouche de Marc que Claude a eu un malaise cardiaque pendant la nuit et est obligé de quitter l'hôtel par ambulance. Donc, ça pour dire, bon, mais les boys, c'est vous autres qui êtes coach à cette heure, puis c'est Kurt Muller qui prend la relève et puis les autres assistants se partagent les tâches. Et puis, du coup, c'est comme, oh my God, t'es sous choc, tout le monde est sous choc. Donc, c'est un peu de même, c'est la façon que je l'ai appris.
OK, je veux savoir, Stéphane, est-ce que quand vous êtes là, est-ce que vous avez la chance de parler avec Claude Julien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous met en communication? Ou Claude Julien, non, oublie ça, on y parle même plus?
Non, absolument pas. Il est à l'hôpital et puis il n'y a pas moyen de le rejoindre. Et puis, c'est peut-être même pas le temps de le rejoindre parce qu'écoute, lui, là, il était en une petite opération mineure, puis après ça, il s'en va à Montréal. Lui, ses séries sont terminées parce qu'il faut se rappeler qu'aussitôt que tu quittes cette fameuse bulle-là, que ce soit un coach, un joueur, un dirigeant, tu peux plus revenir dans la bulle à cause des risques de contagion. Donc, c'est là que c'était fini avec Claude pour les séries, mais que ça reste que on va donner, premièrement, c'est un choc pour le coaching staff. Et puis, parce que là, écoute, on vit ensemble à tous les jours. On passe nos journées ensemble. On se côtoie plus souvent qu'on côtoie la famille. Donc, ça devient une grosse famille qui sont si serrées. Puis que là, on est comme, on n'a pas la tête au hockey, on a la tête à Claude, comment qu'il va, lui. Mm-hmm. Et puis, donc, c'est le même. Puis après ça, mais un coup, le choc passé, mais là, écoute, faut qu'on dise, OK, bon, mais faut qu'on s'organise. On avait une pratique qui s'en venait. Et puis, mais là, il fallait annoncer ça aux joueurs. Et la façon qu'on l'avait fait, nous, c'était de réunir les vétérans, les leaders, les Shea Weber, les Gallagher, les Carey Price, les Chariot, puis tous nos leaders, pour leur dire, bon, ben, regarde, c'est Kirk qui va prendre la relève. Puis ça, c'est Kirk qui prend la relève comme entraîneur-chef. Le reste, c'est rien qui change. Et puis, mais c'est sûr que les joueurs aussi, c'est comme tabarnouche, on peut-tu parler à Claude et qu'est-ce qui se passe? Donc, ça shake une équipe pour, je vais te le dire, là, un bon 24 heures.
OK. Donc, ce qu'on a vu contre Calgary, c'est assez normal. En plus, le Canadien n'a pas l'expérience que vous aviez à l'époque avec les Weber et tout ça, là.
Exactement. Et puis, écoute, c'est exactement ce qui est arrivé, à mon avis, contre le Calgary. C'est-à-dire, le Canadien n'a pas disputé un gros match. Un match assez désorganisé, même que je pourrais dire. Tout le monde était moyen en partant du gardien de but à tous les joueurs. Et puis moi, je pense que c'est l'effet que les joueurs étaient quand même sur un petit choc pendant 24 heures en voulant dire, c'est bon, qu'est-ce qui se passe à notre coach? Puis j'espère que ça va bien aller. Puis comme je me répète encore, dans une équipe de hockey, on tisse des liens serrés, tout le monde s'inquiète de tout le monde, et c'est normal. Et puis, je pense que c'est ce qui est arrivé aux Canadiens. Ils ont été shakés un peu. Je pense que là, ils sont fait sûrement rassurés, en espérant que c'est rien de trop grave. Mm. Et puis là, en ce moment, mais là, c'est business. Mais il reste que quand même, c'est une nature humaine. Ils l'ont su, eux autres, la journée même. Donc, c'est normal que cette équipe-là soit un petit peu déconcentrée ou shakée ou désorganisée. C'est tout à fait normal.
Stéphane, c'est là que tu vois que Martin Saint-Louis emmène large. Je ne suis pas négatif de la façon que je le dis, là, mais c'est vraiment lui, le capitaine, le leader de cette équipe-là. Quand il n'est pas là, c'est là qu'on voit la conséquence.
Je suis tellement d'accord. Puis c'est drôle, je regardais le match samedi soir puis je me dis, il semble qu'il manque quelque chose. Il manque qui? Il manque le leader. Il manque. J'ose dire le joueur le plus important qui manquait, parce que c'est vraiment le leader incontesté de cette équipe-là. C'était pas au même niveau que nous quand on a perdu Claude Julien. Oui, c'était notre leader comme coach, mais on avait des gars présents dans la chambre, comme je te disais, on avait des Weber, des Carey Price, etc., qui emmenaient très large et qui ont pu ramasser la chambre. mais on sent, puis on, ça, on sent depuis le début que le vrai leader du Canadien, c'est Martin Saint-Louis, puis aucun doute que ça fait une grosse différence.
Bon, Stéphane, écoute, là, tu sais, on peut se raconter des histoires, moi puis toi, pendant des heures, puis se dire, ah, maintenant, là, ils sont retombés sur terre, puis ça va bien aller, sauf que c'est les Oilers d'Edmonton, sauf que c'est les Canucks de Vancouver, sauf que ça va être l'Avalanche Colorado, veut pas, là, écoute, ils se donnent pas de chance, là, ça va être difficile, là.
Ah, ça va être un voyage très, très, très difficile. Pour plusieurs raisons. Premièrement, là, on est dans le dernier stretch. Et puis, ça va être très difficile de se concentrer. Et puis, surtout, de se motiver et de garder l'intérêt. L'intérêt de jouer de la bonne façon. Peu importe le résultat. Peu importe gagne ou pas. Peu importe même si on en gagnerait quatre en ligne. Ça changera absolument rien notre situation. Donc, ça va être difficile. Puis, un gars qui était capable de le maintenir, cet intérêt-là, jusqu'à date, Martin Saint-Louis. Et puis donc, doublement difficile en son absence, mais écoute, mais surtout, c'est qu'on joue contre des équipes, toutes des équipes qui ont de quoi à gagner. Ils ont une position au classement à gagner. Il y a des équipes qui luttent pour les séries. Il y a des équipes qui luttent pour finir premier. Ça va être un voyage très, 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 très difficile.
OK, Stéphane, avant qu'on se laisse, je veux te parler d'une nouvelle qui est arrivée dans la KHL. Écoute bien ça. C'est un gardien russe de 21 ans. Son nom, c'est Artemi Pleshkov, qui a réussi l'exploit samedi. Écoutez bien, il a bloqué 124 lancés dans un match de la KHL. OK, mais son club a perdu 1-0 en cinquième période de prolongation. Je répète, 124 lancés bloqués. En 10 matchs de la saison, il a maintenu une moyenne de 1,87, un pourcentage de 1,97 plutôt, pourcentage d'efficacité 926. Pas été repêché dans la Ligue nationale, aucun contrat avec aucune formation dans la Ligue nationale. Tu as déjà entendu ce nom-là, Artemi Pleshkov?
Non, mais là, il y en a beaucoup qui en parlent. Et puis, c'est quand même incroyable. 124 arrêts, 125 lancés. C'est incroyable. Oui, c'est 5 périodes de prolongation. Oui, c'est 8 périodes totales. Mais il reste que 124 lancés en moins de 160 minutes. C'est incroyable. Donc, une performance qui devait être incroyable. Je ne l'ai pas vu, pareil, pas beaucoup de monde qui l'ont vu. Mais le jeune Pleshkov, écoute, c'est sûr que quand que j'ai vu cette nouvelle-là en fin de semaine, première chose que j'ai faite, c'est de le voir, c'est qui ça?
Ouais.
Son curriculum vitae, son background. Mais c'est un gars qui a tout teinté. Premièrement, le plus gros problème de Pleshkov, c'est qu'il est 5 et 10.
OK.
Ça, c'est son plus gros problème. En partant.
Mais Sarah ne serait pas d'accord avec toi des Prédateurs de Nashville, par contre.
Sarah ne sera pas content, mais il y en a un. Sarah, 168 gardiens de but dans la Ligue nationale.
OK.
Et puis, il y en a un. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas deux. Mais le gars, il est quand même, tu sais, ça fait trois ans qu'il n'est pas. C'est un gardien de but qui est un numéro 2. Il y a une raison pour ça. Ça n'empêche pas qu'à un moment donné, tu peux sortir la performance de ta vie. Comme un joueur de tennis peut sortir le match de sa vie, comme un joueur de golf peut jouer la ronde de sa vie. Donc, c'est pour ça que je me dis, surtout quand j'ai vu son gabarit 5 et 10, un gardien de but qui était numéro 2 dans ces dernières années, autant dans le KHL que dans la VHL, la ligue comme la ligue américaine de la KHL, c'est là mon problème. Sauf que il a seulement 21 ans. Et puis, ça serait peut-être le genre de gars que tu signes pas, mais que tu invites sur une invitation, un try-out dans un camp de la Ligue nationale. Ouais. Ça pourrait être intéressant à voir. Mais il reste qu'il n'y a pas personne qui va pouvoir y enlever cette performance-là qui est incroyable, qui va rester, je vois pas le jour que ça, quelqu'un va battre. Pas seulement d'avoir eu 125 lancés, mais d'avoir donné un but. C'est incroyable.
Ben, écoute, des fois, il faut être patient avec les gardiens de but. Il y en a un qui s'appelle Charlie Lindgren, qui est dans le filet pour les Capitals de Washington, qui fait bien, puis qui aide Washington à revenir dans les séries. Des fois, ça prend un petit brin de patience avec les gardiens, là.
Ah, exactement. Et puis, je pense, je l'ai dit à peu près 1000 fois en 3 ans, soyez patient avec les gardiens de but. Quand on les juge à 22, 23, 24, mais même 25 ans, quand on les juge, puis on dit qu'ils sont finis, ils vont même dans la Ligue nationale, ils n'auraient toute une gang qui n'aurait pas joué dans la Ligue nationale. parce que la plupart des gardiens de but deviennent matures à partir de 26, 27, 28. Charlie à 29 ans est la preuve vivante, tellement content pour lui. Et tu parlais du score 1-0 Washington. Je regarde le match de sur un coin de l'œil. Charlie a encore été très bon. 12 lancés en première période, rien donné encore. Et puis, mais tellement content pour le gars. Le gars a tellement travaillé fort. J'ai eu la chance de passer 3 ans avec lui. Un gars qui dit jamais un mot, même s'il aurait dû des fois. Il aurait pu se plaindre des fois. Il aurait pu appeler son agent et dire, écoute, là, fais quoi, j'ai pas de ma chance. Puis, jamais, tous les jours, Steph, à quelle heure on va sur la glace? Steph, on peut-tu faire de l'extra? Steph, si, Steph, ça. Une attitude incroyable, une personne incroyable. Et puis, écoute, un jour, tu payes pour ça. Et puis lui, mais écoute, il récolte tout ce qu'il a semé, tellement content à son âge d'avoir pris le poste de numéro 1 en avant d'un champion de la Coupe cette année, il y a quelques années, Darcy Kuemper.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, si les Capitals, peut-être dans une heure et demie, vont être dans les playoffs en ce moment-là. Mais il y a une grosse partie qui vient à Charlie Lindgren.
Sauf que t'as dit deux mots qui vont pas ensemble, hockey et patience. Habituellement, c'est difficile d'être patient au hockey. Stéphane White, ça fut un plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci, bonne soirée et bonne semaine, Jérémy. Merci.
Les amateurs de sport.
C'est 23.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.